Je m'impatientais même. Merci Sébastien Duhamel, bonne journée, à très vite, 8h40 en temps universel.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue, si vous nous rejoignez, 10h40 à Paris, dans un instant la libre antenne. Mais d'abord, laissez-moi vous dire que la semaine prochaine, on vous prépare trois émissions spéciales. La première sur la CDAO, puisque l'organisation célébrera ses 50 ans, un anniversaire sur fond de crise depuis que trois de ses pays membres ont claqué la porte. L'occasion avec mes invités de dresser le bilan de ces 5 décennies. Vous pouvez d'ores et déjà commencer à vous inscrire pour prendre la parole. Deuxième émission spéciale consacrée à la Banque africaine de développement à l'occasion notamment de l'élection de son nouveau président. Alors Labad, vous connaissez son nom, vous savez qu'elle mobilise des milliards de dollars dans les infrastructures, dans l'agriculture, dans l'industrialisation de l'Afrique. Mais concrètement, quels sont les résultats? Quels sont les changements dans votre vie quotidienne? Vous pourrez directement interpeller et dialoguer avec le président de la BAD. Et puis enfin, troisième émission à Abidjan sur le climat politique en Côte d'Ivoire. On est à 5 mois de la présidentielle. Vous pourrez dialoguer avec les représentants des principaux partis politiques. Voilà pour le programme de la semaine prochaine. Inscrivez-vous et RFI vous donnera la parole. La Libre Antenne, vous êtes nombreux ce matin à commenter l'inculpation et le placement en détention provisoire de l'opposant tchadien Succès Masra. On va prendre quelques auditeurs, on aurait pu passer la matinée rien que sur ce sujet. Bonjour Clément.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs.
Vous êtes à N'Djamena, Succès Masra, opposant, ancien Premier ministre. Je rappelle que la justice lui reproche un enregistrement, un audio incitant à la haine. Audio qui, d'après la justice et les autorités, serait responsable des affrontements de la semaine dernière, les violences intercommunautaires dans le sud du pays qui ont fait 42 morts. Les avocats de Succès Masra dénoncent une cabale politique. Vous en pensez quoi, Clément ?
Ben déjà, il faut dire par respect, on n'a pas trop le droit de commenter ce qui se passe, surtout qu'on n'a pas forcément trop d'informations sur.
Oui, mais en même temps, vous souhaitez prendre la parole, donc allez-y, profitez-en.
Tout à fait, c'est pour ça. Par principe, n'est-ce pas, de réserve sur une question judiciaire, il vaut mieux quand même parler comme ça. Et après, on a notre propre opinion de la chose. L'audio qui circule semble être vérifié, mais daté peut-être de 2023 ou quelque chose de ce genre. Oui. Et moi, je me rends compte qu'en réalité, je ne sais pas si c'est à dessein ou si c'est vraiment par erreur politique. Aujourd'hui, avec l'arrestation de Masra, on a rendu service au transformateur. Le système a rendu service au transformateur en le mettant au devant de la scène, alors que pendant les élections ou après ces élections-là, les transformateurs étaient mal en point.
Les transformateurs, le parti de Succès Masra, parti qui, je le rappelle, a boycotté les sénatoriales, les législatives et les locales. Donc vous êtes en train de nous dire que ce parti, depuis la fin de la transition, finalement, était un peu passé aux oubliettes et qu'à travers l'arrestation et l'inculpation de Succès Masra, donc son leader, il est de nouveau propulsé sur le devant de la scène.
Exactement, et c'est pour ça que je me demande si c'est à dessein ou c'est par erreur. Dans tous les cas, aujourd'hui, les faits reprochés à Masra, la justice en est saisie, c'est une bonne chose, mais la crainte est que, est-ce qu'il y a suffisamment de preuves, est-ce qu'il y a suffisamment de quoi à inculper une personnalité de ce rang-là? Mais aussi l'autre aspect, c'est que si l'audio date déjà de 2023, pourquoi à partir de 2023, on ne l'avait pas déjà inculpé?
Ah bah, maintenant seulement. Mais Clément, excusez-moi, vous posez une question. En même temps, vous avez certainement la réponse. Vous êtes sur place, vous êtes mieux informé que moi. Il a été poursuivi pour les propos de 2023. Il y a même eu un mandat d'arrêt lancé contre lui. Depuis, il y a eu un accord de réconciliation entre Succès Masra et Mahamat Idriss Déby, accord qui lui a permis ensuite d'être amnistié, ce qui a fait que Succès Masra a pu revenir au pays puisqu'il était en exil, qu'il a pu même être Premier ministre de la transition. Et c'est ce que disent les avocats. Les propos de 2023 ont été amnistié. Adam, vous êtes également à N'Djamena, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Alors, dans quel état d'esprit êtes-vous après l'inculpation de l'opposant ?
Je suis serein dans la mesure où mon pays, la justice de mon pays rend la justice au nom du peuple tchadien et le Premier ministre Masra Succès fait partie de ce peuple. Par conséquent, s'il y a une faute qui soit avérée par la justice et que si cela mérite que M. Massara soit inculpé, que la justice fasse sérénement et tranquillement son travail afin que le peuple tchadien s'en inspire.
Donc vous, vous dites faire confiance en la justice tchadienne. Ses avocats, les avocats de l'ancien Premier ministre, dénoncent eux, une manipulation politique, une volonté de nuire politiquement.
Les avocats sont dans leur rôle. Ils défendent un client de qui ils ont de l'argent. Donc par conséquent, ils sont dans leur rôle et ils ne peuvent que seulement dire ce qu'ils croient pouvoir faire, n'est-ce pas, peser la balance. Donc, de mon point de vue, je pense que M. Massara, jusque-là, il est en détention provisoire. La justice est en train de suivre son cours. Et par conséquent, il faudrait que nous dépassionnons un peu le débat pour que vraiment la justice fasse son travail.
Mais vous ne vous dites pas... Allez-y, pardon.
Et qui n'est pas des moindres, c'est qu'il y a eu une défaillance dans le système de renseignement de notre pays. Sinon, comment est-ce qu'on pourra comprendre que lorsque nous sommes un pays avec un système sécuritaire aussi performant qu'il soit, des entrasseurs qui sont nommés normalement pour servir le peuple, un tel drame ne puisse pas ne pas être anticipé pour que cela soit empêché. Là aussi, c'est une faute grave que l'État a fait commettre par ses agents.
Oui, mais encore faut-il que l'enregistrement en question date de 2025 et date vraiment juste avant le massacre de la semaine dernière. Vous dites que les services de renseignement auraient dû détecter cet audio plus vite. Et non, avant malheureusement les violences et non après.
La méthodologie avec laquelle cette violence a été perpétrée. Comment est-ce qu'on a pu trucider autant de gens dans un seul jour jusqu'à ce qu'on ait aujourd'hui sur le bras plus de 40 morts. Donc à ce niveau, il y a eu une défaillance et une faute quelque part qu'il faut n'est-ce pas sanctionner aussi.
Adam, merci de nous avoir appelés. Je prends un dernier auditeur sur ce dossier et on aura l'occasion évidemment de vous redonner la parole très vite. Bonjour Brahim.
Oui, Brahim Mamasseto, depuis Djamena au Tchad.
Vous êtes à Djamena. Êtes-vous dans la circulation, Brahim?
Oui, bonjour, Juan Gomez, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Oui, vous êtes en train
Concernant l'arrestation...
Oui, allez-y.
Oui, concernant l'arrestation du système Matra et les accusations liées aux événements du 14 mai 2025 à Mandakao, dans le Nogon occidental, je voudrais exprimer ma profonde préoccupation par deux points. Allô?
Oui, je vous écoute. J'essaye de vous écouter. Il y a beaucoup de bruit. Excusez-moi, Brahim, vous avez une oreillette, vous avez mis le haut-parleur. Que se passe-t-il?
Oui, haut-parleur.
Ah, ben non. Surtout pas de haut-parleur, Brahim. on vous l'a dit, hors antenne, pas de haut-parleur. Bon, vous savez quoi? On règle ça. Brahim, on vous rappelle, ne vous inquiétez pas. Vous n'aurez pas le temps de vous exprimer aujourd'hui, mais on le fera une prochaine fois. C'est promis, les auditeurs en sont témoins. D'autres sujets dans la libre antenne ce matin, et voilà un sujet aussi sur lequel on pourrait passer la matinée. La décision hier, le vote hier du Sénat en République démocratique du Congo. Les sénateurs ont levé l'immunité de l'ancien président Joseph Kabila, qui est accusé par les autorités et la justice militaire de complicité avec les rebelles AFC M23. Bonjour Georges.
Bonjour Juan, bonjour à tous les invités de la RFI.
Vous êtes à Bounia et comme de nombreux Congolais, vous souhaitez prendre la parole. Avez-vous été surpris par la levée de l'immunité de Joseph Kabila?
Et pas du tout, parce que dans le passé, le président de la République a dénoncé à maintes reprises que c'est son prédécesseur qui est derrière ce mouvement rebelle. Donc on était justement en train de chercher comment les clouer. Et voilà, la messe est dite. Donc je ne suis pas surpris. On s'attendait justement à ça.
Ouais, vous dites la messe est dite comme s'il n'y avait pas suffisamment d'éléments, de preuves pour affirmer que l'ancien président est bel et bien en collusion, en complicité avec les rebelles.
Juan, au Congo, on n'a pas besoin de preuves pour condamner quelqu'un. La justice actuellement, c'est justement un instrument d'ostracisme politique. On peut créer tout ce qu'on peut pour seulement avoir la tête de quelqu'un. Et c'est ce qui a été fait.
Vous y voyez avant tout, Georges, une manœuvre politique comme l'a dénoncé d'ailleurs en personne hier soir Joseph Kabila sur les réseaux sociaux.
Exactement, c'est une manœuvre politique. Il n'y a rien de justice. Parce que je vous signale qu'il y aurait même une lettre du ministre de la justice qui circule sur les réseaux sociaux,
ouais.
où il sollicite presque un demi-million de dollars pour l'organisation de ce procès.
Bon,
donc nous pensons que l'argent aurait circulé comme d'habitude, parce que chez nous, au Congo, la corruption est tolérée.
Bon, écoutez, méfiez-vous de ce que vous observez, regardez, scrutez sur les réseaux sociaux, Georges. Hein, je ne sais pas de quelle lettre vous parlez, mais bon, en tout cas, faut que ça soit évidemment confirmé. Jean-Emmanuel, bonjour.
Bonjour, Juan.
Vous êtes à Kolwezi, vous souhaitiez également prendre la parole sur le vote des sénateurs.
Effectivement, Juan.
Eh bien, vous écoute.
Ok, merci Juan de m'avoir donné l'occasion de parler sur les ondes de la RFI. Et je salue cette décision des sénateurs de la République démocratique du Congo qui ont prouvé à la face du monde qu'au Congo, la justice doit évoluer et faire son travail. Nous saluons cette décision de tous les membres du Sénat. Et quant à moi, en tant que Congolais, je ne laisserai pas cette occasion s'échapper. Raison pour laquelle j'ai pris bonne note de participer à cette émission.
Mais Jean-Emmanuel, vous dites saluer le vote des sénateurs. Juste avant vous, Georges, qui, comme une grande partie de l'opinion publique, doute des éléments présentés au grand public pour accuser Joseph Kabila. Vous, il n'y a pas de doute, il est bel et bien derrière ce mouvement rebelle. Il doit bel et bien être poursuivi pour trahison, crime de guerre, participation à un mouvement insurrectionnel.
Oui, Juan Gomez. Joseph Kabila est un membre d'une institution d'appui à la démocratie. Lui qui fut sénateur à vie, ne devait pas vraiment faire ce qu'il vient de commettre comme bavure en alliant avec les groupes terroristes du M23 qui font des terreurs, qui tuent des milliers de Congolais à l'est du pays. Juan Gomez, imaginez-vous, un sénateur à vie, c'est quelqu'un qui est respectueux.
Oui.
Monsieur Joseph Kabila devait faire preuve de ses fonctions. Et hier, quand j'ai suivi l'organisation de la levée des immunités, les membres du Sénat ont soulevé plusieurs points en disant: et si aujourd'hui on prenait la décision de lever les immunités de Joseph Kabila, est-ce que cela va empêcher au Sénat d'évoluer? Ils ont dit non, rien n'empêchera au Sénat d'évoluer. Parce que quand on regarde bien, même dans des listes de présence, Joseph Kabila étant sénateur à vie, n'a jamais participé dans des séances.
Bon.
Et si on levait les immunités, cela n'empêche à rien.
Ça n'aura aucun impact dans le bon fonctionnement du Sénat, mais est-ce que ça n'aura pas un impact tout de même sur la stabilité du pays, sur le climat politique, Jean-Emmanuel?
Effectivement, M. Juan. Donc, c'est à Joseph Kabila de prouver son innocence. S'il se dit qu'il est innocent, il ne participe pas à aucun groupe armé du M23. Et
oui,
par rapport à tout ce qu'il y a eu comme preuve, de la part de M. Eric Nkuba, c'est lui qui était détenu récemment.
Oui, Eric
Nkuba. Il a donné quelques piliers de...
Bon, mais c'est les propos d'Eric Nkuba sont contestés, remis en cause par l'entourage de l'ancien président Joseph Kabila. On aurait pu passer la matinée, je vous le disais tout à l'heure, et chacun d'entre vous est très bavard, mais je comprends, c'est des sujets qui vous tiennent à cœur. En République démocratique du Congo, pour le coup, là, il s'agit d'une grande première, un ancien président qui voit son immunité levée et qui pourrait donc être jugé. On suivra ça dans les prochains jours et les prochaines semaines. Youssouf, bonjour.
Bonjour, Juan.
Bienvenue dans la Libre Antenne. Vous êtes où? Vous êtes dans le centre de la France, m'a-t-on dit?
À Pithiviers, oui, dans le centre de Forêt.
À Pithiviers, d'accord. Vous nous interpellez, Youssouf, sur un triste anniversaire concernant votre pays d'origine, la Guinée. Il y a un an, jour pour jour, 6 radios et télévisions privées de Guinée étaient interdites de diffusion et elles le sont toujours encore.
Oui, c'est un triste anniversaire. Pour faire ce triste anniversaire, ils ont choisi d'organiser un soi-disant forum. Alors que dans ce forum qu'ils ont organisé, ils n'ont même
pas... Quand vous dites, Youssouf, ils ont décidé d'organiser, ce sont les militaires, c'est le gouvernement de transition, ce sont les autorités de la transition.
Oui, les autorités de la transition avec la haute autorité de la communication qui ont organisé ce forum. Et dans ce forum, ils n'ont même pas pris le soin de parler de ces radios qu'ils ont fermées il y a un an. C'est une triste réalité. Regardez le classement que la Guinée a fait, une chute libre de la 74e place. ils se sont retrouvés cette année à la 103e place.
Oui, vous parlez du classement de Reporters sans frontières sur la liberté de la presse.
Exactement, c'est le classement de RSF. Mmh. C'est une question qui est vraiment totalement insensible. Mmh. Mettre à la porte des journalistes sans travail, c'est quelque chose que la junte veut détruire la presse guinéenne. Mmh. Fermer des radios privées avec qui la population pouvait voir la réalité du pays. Maintenant, ce n'est plus le cas.
Ouais, c'était des radios et télévisions emblématiques, hein, très écoutées, très regardées. Il y avait, c'est vrai, dans ces radios-là, une certaine liberté de ton. Et bon, les autorités ont décidé, pour des raisons, on va dire, plus administratives, officiellement, hein, non-respect du contenu des cahiers des charges. C'était les raisons invoquées il y a un an. On a entendu également, je crois même sur notre antenne, le porte-parole du gouvernement parler de raisons de sécurité nationale. Youssouf, en tout cas, merci de nous avoir appelé et de nous avoir rappelé ce triste anniversaire, la fermeture de 6 radios et télévisions privées en Guinée. 10h56, il nous reste 4 minutes. Avant d'entrer dans ce studio pour tout vous raconter, j'ai lu le message de Brahim sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp. Voilà, Brahim, comme tant d'autres auditeurs, et Brahim nous dit « Monsieur Gomez, j'aimerais vraiment prendre la parole sur un sujet qui semble totalement oublié des médias internationaux. » Eh bien, voilà, on ne vous oublie pas. Bonjour Ibrahim.
Oui, bonjour Monsieur Gomez.
Vous êtes
et bonjour à toute votre équipe.
Merci, vous êtes à Dosso, dans le sud-ouest du Niger. Vous êtes enseignant, et comme la quasi-totalité des enseignants de votre pays, enseignants du primaire et du secondaire, vous avez entamé cette semaine une nouvelle grève pour exiger l'amélioration de vos conditions de vie.
Effectivement, Monsieur Gomez, c'est la deuxième semaine que nous avons décidé de déclencher cette grève contre le gouvernement. Parce que le gouvernement refuse toujours d'honorer ses engagements. Souvenez-vous, lors de la rentrée 2023-2024, le gouvernement avait promis aux enseignants contractuels qu'il y aura un recrutement. Et vers la fin de l'année 2024, le gouvernement nous a fait comprendre que la situation est difficile. Le gouvernement ne peut pas recruter les enseignants à la fonction publique. Et il nous a demandé de se patienter pour la rentrée 2025. Donc en 2025 aussi, il nous a promis qu'il y aura le recrutement. C'est même le Premier ministre qui nous a promis qu'il y aura le recrutement en 2025. Et maintenant, vers la fin de l'année 2025, le Premier ministre nous a dit qu'il est vraiment pratiquement impossible pour le gouvernement de recruter. Ouais.
Donc votre patience a des limites, Ibrahim, et donc vous avez décidé, quand je dis vous, c'est les syndicats du secteur de l'éducation et de la formation, d'être en grève. C'est quand même une grève inédite. Je crois que c'est la première fois depuis que les militaires sont au pouvoir que les 28 syndicats de la dynamique sont en grève, ensemble.
Oui, c'est même une coalition. On a plus de 20 syndicats aujourd'hui qui ont décidé d'aller en grève. Parce qu'ils ont tous compris que vraiment on ne peut pas faire confiance à un gouvernement qui ne respecte rien du tout.
Ouais, mais en même temps, Ibrahim, vous pouvez entendre que le gouvernement n'a pas forcément l'argent nécessaire dans les caisses de l'État pour répondre à toutes vos revendications.
Et pourtant, ils ont l'argent pour recruter plus de 10 000 dans l'armée chaque année. Ils ont l'argent pour acheter les armes. Alors quand il s'agit de l'éducation, donc comme si l'éducation n'a aucune valeur, n'a aucune importance dans ce pays. Mmh. Donc cette année, nous avons décidé, on ne peut plus faire cadeau à personne. Vraiment, l'éducation, on devrait traiter l'éducation comme tous les autres.
Comme priorité numéro un, au même niveau que la sécurité nationale. Ibrahim, la grève, elle a été votée pour 3 jours. Elle est censée se terminer aujourd'hui. Elle sera reconduite la semaine prochaine ?
Et il y a une forte probabilité que la grève continuera à partir du lundi jusqu'au vendredi.
Bon, bah écoutez, on suivra
ça. Si le gouvernement refuse, si le gouvernement aussi refuse, nous pouvons aller à la vitesse supérieure, c'est-à-dire déclencher une grève illimitée.
Ouais. Bah en même temps, grève illimitée, Ibrahim, pensez aux parents, pensez aux élèves, la peur de l'année blanche. Hein. Ibrahim, en tout cas, merci à vous. Bon, Bon courage et merci de nous avoir appelés. Merci surtout de votre confiance à Dosso dans le sud-ouest du Niger. C'est la fin de cette émission, la fin de la semaine d'ailleurs. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci de votre confiance. On sera de retour lundi matin à 8h10 temps universel avec vos questions. Et puis on lancera le débat sur le Sénégal puisque en quelques jours, en une semaine, quatre anciens ministres de l'ex-président Macky Sall ont été inculpés par la Haute Cour de justice et la liste des inculpés est loin d'être terminée. Excellente fin de semaine, prenez soin de vous. À lundi.
Crédit Express de Banque Atlantique vous a proposé appel sur l'actualité.
Banque Atlantique.